La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que nous allons consacrer à bœufs, veaux et vaches jadis en Basse Marche. Pour les textes, nous avons puisé dans les ouvrages suivants La région Limousin de Louis Timbal, État statistique de la Haute-Vienne en 1808 du préfet Texier Olivier, La société rurale en Limousin et Basse Marche d'Albert Gourceau, Paysan rouge du Limousin de Pierre Valin, La Limousine, histoire d'une race de Dominique Dantieu et Philippe Grandcoin, Animaux familiers et farouches de Charles Sylvestre, Le patois de la Basse Marche de Michel Dupeux, Récit de l'ancien temps de Paul Lavergne.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Aujourd'hui, l'élevage en Basse Marche se construit sur une double image. Le bovin, qui se maintient bien dans la partie est de notre territoire, à Magnac-Laval, à Saint-Sulpice-les-Feuilles par exemple, et le mouton qui a envahi la partie ouest de la Basse Marche dans la zone de Mézières-sur-Issoire, du Dora, de Bellac. Mais c'est une activité relativement récente qui s'est développée à partir des années 1960-1970. On disait alors que le mouton était le dernier rempart contre les friches. Pendant longtemps pourtant, nous dit le géographe Louis Timbal, le froment, et lorsqu'il parle du froment, il s'agit un peu du blé, mais surtout du seigle, le froment était jadis cultivé sur les terres en amphibole, et la Basse Marche, par exemple, était le grenier à blé du plateau de Limoges. Mais peu à peu, la main-d'œuvre se raréfiant, le total de la superficie cultivée en céréales n'a cessé de diminuer, et la polyculture va se développer en Basse Marche, et les cultures fourragères vont peu à peu prendre un grand essor, betteraves, carottes fourragères, trèfles, rutabaga, raves, et puis bien sûr, topinambours. Dès lors, la Basse Marche, comme le reste du Limousin, va devenir un pays d'herbage, et donc, par là, un pays d'élevage. Et bien sûr, c'est la race bovine limousine qui va conquérir tout le sol limousin. Et Louis Timbal de conclure, on fait aussi de l'engraissement en plein air dans les plateaux de la Basse Marche, par exemple, qui constitue une véritable région d'embouche.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
La vache fut jadis un animal extraordinaire. Certes, dans les grands domaines, il y a des bœufs, mais sinon, dans toute la région, c'est la vache qui est employée pour les travaux des champs. Elle laboure, traîne le rouleau, tire les charrettes quand on rentre le foin, les topinambours, les pommes de terre. Elle fait les charrois de fumier et de fagots. Liées deux à deux, elles sont quelquefois six pour mener la charrue. Les vaches limousines sont de taille moyenne, bien musclées, elles ont les chines droites, les pattes fines et sont légères dans leur robe fauve. On les conserve jusqu'à l'âge de 12 ou 15 ans pour leur travail et leurs produits, après quoi on les engraisse pour la boucherie. Travaillant sans relâche, produisant bien et s'engraissant facilement, elles n'ont qu'un seul défaut, c'est d'être de mauvaises laitières. Comme certaines vaches ne fournissent que 6 ou 7 litres de lait par jour, les veaux seuls en profitent. Lorsqu'on veut avoir du lait, on utilise d'autres races. On le voit donc, la vache limousine est un animal extraordinaire. Pendant la plus grande partie de sa vie, on va l'utiliser pour sa force de travail, pour les charrois, pour les labours, mais encore pour produire des veaux et donc aussi un peu de lait. Également pour la production de l'indispensable fumure et enfin, après engraissement, pour la production de viande. En fait, lorsqu'on y regarde de plus près et en nous appuyant sur l'enquête du préfet Texier Olivier de 1808, on s'aperçoit que les vaches de travail sont finalement assez mal soignées. Et cela par comparaison aux bœufs d'engraissement. Les vaches de travail et les nourricières, car elles réunissent toujours cette double qualité, sont de toute la famille des bêtes à cornes, celles qui sont le plus mal soignées.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
On ne leur donne pendant l'hiver qu'un mélange de paille de seigle et d'avoine, et les restes des bœufs mis à l'engrais, et le plus mauvais foin qu'on récolte. On les mène chaque jour dans les champs depuis 9h du matin jusqu'à 5h du soir, mais ces bêtes affamées, trouvant des pâturages maigres, presque nus, sont réduites dans la plupart des cantons à dévorer ce qu'elles peuvent arracher des haies, des broussailles et des arbustes, et à surcharger ainsi leurs estomacs d'une nourriture peu substantielle et indigeste. Dans les autres saisons de l'année, elles vont packager deux fois par jour, le matin de bonne heure et le soir vers les 3h. On ne leur donne rien à l'étable, à moins qu'on se propose de les faire travailler. L'influence rigoureuse que les frimas, les pluies et les vents glacés exercent sur les vaches pendant l'hiver, jointe à l'insuffisance et à la mauvaise qualité de leur nourriture, les jette dans un état de maigreur extrême, que dissipent néanmoins jusqu'à un certain point les pâturages les plus succulents et la température plus douce des belles saisons. Aussi, le printemps est-il plus particulièrement l'époque où elles entrent en chaleur, ce qui fait que leurs veaux naissent le plus communément pendant l'hiver.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Albert Gourceau, après nous avoir indiqué qu'au début du siècle dernier, une exploitation de 40 hectares de rancons, donc pour l'époque une grande exploitation, comptait un taureau, 4 bœufs, 6 vaches, 3 chatrons, les chatrons ce sont de jeunes mâles castrés, 6 génisses et 5 veaux. Il nous confirme la place essentielle des vaches. La charrue, la herse, la charrette à foin, ainsi que le petit tombereau de servitude ont toujours en Limousin été traînés par des bœufs et des vaches attelées à couple au moyen d'un joug dit à corne ou à nuque. Le cheval est en effet trop nerveux et de tempérament trop fragile pour labourer nos terres lourdes et grasses et pour tirer un véhicule dans nos chemins qui sont de véritables fondrières. Dans les grandes métairies pourvues d'un cheptel important, on dressait toujours un couple de bœufs qui sont plus robustes et moins exposés aux accidents que les vaches, en particulier les avortements, car c'est à eux qu'incombaient les labours profonds, les charrois pénibles et éventuellement les défrichements. Mais dans les petits domaines qui ont toujours formé la grosse majorité des exploitations, on ne faisait travailler que des vaches. Parce que d'une part, les travaux auxquels elles étaient affectées n'exigeaient que tout à fait exceptionnellement une grande force physique, et que, d'autre part, la vache limousine a toujours été suffisamment rustique pour qu'on puisse lui demander, en plus de son travail à la ferme, le revenu régulier d'un jeune veau et de quelques litres de lait. Dans Paysan Rouge du Limousin, qui traite de la zone de Compreignac, Pierre Valin nous explique qu'au XIXe siècle, une propriété de 2 vaches permet de faire vivre de 3 à 5 personnes. Et une de 4 vaches permet de faire vivre de 6 à 8 personnes.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Concernant les bœufs gras, Dominique Dantieu et Philippe Grandcoin nous expliquent qu'en fait, notre basse marche est un pays d'engrais. Se singularisent tout d'abord les zones où dominent les bœufs et les labours, où la finalité essentielle de l'élevage est de produire des animaux gras pour Paris et les grands marchés urbains. Il s'agit pour l'essentiel de la basse marche, notamment l'arrondissement de Bellac en Haute-Vienne. L'engraissement des bovins s'appuie aussi sur des structures agricoles particulières dont le nord du Limousin offre les exemples les plus caractéristiques. La grande propriété y est fortement représentée et surtout, elle s'organise en vastes exploitations, fermes et plus encore en métairies. Les auteurs nous précisent aussi que ces contrées se singularisent par une plus grande ouverture vers le marché parisien, due à une relative proximité géographique, ajoutant que jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, les bœufs étaient convoyés à pied jusqu'à Paris. Ce trajet pouvait durer 2 semaines, les animaux perdant de 30 à 40 kilos durant le voyage. Mais même en pays d'engrais comme en basse marche, les vaches forment l'essentiel de l'ossature du cheptel de la métairie. L'engrais s'inscrit donc dans une logique économique locale. Les animaux nés sur l'exploitation sont vendus jeunes, ainsi que l'explique le maire de Mézières-sur-Issoire en 1829. On ne met jamais de veau à l'engrais. On est dans l'usage de les vendre à l'âge de 6 semaines ou 2 ou 3 mois. Sont vendus en priorité les velles ou veaux difformes, tandis que les plus belles bêtes sont conservées pour les besoins de l'exploitation, notamment les femelles. En effet, je me répète, même en pays d'engrais, les vaches constituent l'ossature du cheptel des fermes. Elles sont engraissées et vendues quand elles ne peuvent plus travailler, soit généralement entre 10 et 15 ans. Il y a bien sûr des bœufs dans les grands domaines. En 1829 toujours, le maire de Dinsac évalue à 6 bœufs le train de culture de chaque métairie, une paire étant mise à l'engrais tous les ans. Dans certains endroits, particulièrement dans la région de Bellac, les bœufs sont vendus à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, comme animaux de trait. Enfin, certaines exploitations achètent des bœufs âgés de 6 ou 7 ans pour les faire travailler pendant une saison, puis les engraisser.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici comment Charles Sylvestre nous parle des bœufs en basse marche. Certains chantent encore en menant les bœufs, à la façon des anciens qui léguèrent des chansons de courage et de simple joie. L'autre jour, j'ai rendu visite à mon voisin Gilbert du domaine de Belfond. Il commençait à dresser pour les prochains labourages 2 jeunes bœufs âgés de 3 ans. Il les ramena bientôt à l'étable, car il ne voulait pas les fatiguer. Déjà, il portait des noms auxquels il répondait avec une gentille exubérance. Ils formaient une belle troupe bondissante. Ils riaient, vraiment. Il y avait dans leurs gros yeux une joyeuse flamme de jeunesse. Ils étaient encore à l'âge où l'on s'amuse. Tandis qu'ils s'avançaient au long des bas-flancs, près de la litière toujours propre et renouvelée, il montra les bœufs qu'il destinait au prochain foirail. Quelques-uns se levèrent pesamment sur son passage et remuèrent leurs grandes oreilles en signe de gentillesse. « La plupart de ces bœufs que vous voyez, dit mon compagnon, seront envoyés à Paris à la Villette dans quelques mois. On commence à les engraisser. On les laisse sortir encore un peu, mais bientôt ils resteront à l'étable. Il s'agit de les forcer. Presque tous, ils sont nés ici, élevés par mes soins. » Ils n'ont pas travaillé trop jeunes. Il faut se garder de les fatiguer à l'excès. La race s'étiolerait vite.
Et de grandes bœufs dans mon étable, de grandes blancs marqués de roues, la charrue est en bois d'érable, l'aiguillon en branche. C'est par leur soin qu'on voit la plaine, verte l'hiver, jaune l'été. Ils gagnent dans une semaine plus d'argent qu'ils n'en ont compté. S'il me fallait les vendre, j'aimerais mieux me pendre.
La nourriture des bovins. Autrefois, la nourriture des bovins se composait presque uniquement de foin de prairie. Mais dès avant la guerre de 14, on avait pris l'habitude, même chez les petits exploitants, d'ajouter à cette nourriture insuffisante des légumes de culture tels que betteraves, carottes, raves, topinambours, ainsi que certains aliments concentrés tels son et tourteaux. Ces aliments étaient surtout généreusement distribués aux jeunes animaux afin de les aider à franchir la période délicate du sevrage. Au printemps, tout le bétail, qu'il soit de trait ou de production, était conduit au pâturage 2 fois par jour. Après son retour à l'étable, on lui donnait encore du trèfle incarnat, de la vesque ou jarousse, et plus tard, en saison, du trèfle violet. À l'automne, quand ses emblavures de trèfle étaient épuisées, on remplaçait ce fourrage artificiel par du maïs vert que l'on fauchait au fur et à mesure des besoins. Les cultivateurs de cette époque s'appliquaient en effet à diminuer l'étendue des pacages pour augmenter celle des prairies dites de fauche et des fourrages artificiels donnés à l'étable. Cette méthode avait un double but, s'assurer d'abord que la ration distribuée à chaque animal était suffisante, éviter ensuite la grande perte de fumier résultant du séjour prolongé des bêtes à l'extérieur.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans le passage d'animaux familiers et farouches, Charles Sylvestre nous précise que les éleveurs donnent des noms à leurs vaches ou à leurs bœufs, surtout lorsqu'ils les utilisent par couple pour les charrois ou les labours. Dans son ouvrage « Le patois de la basse marche », Michel Dupeux a recensé quelques-uns de ces noms à Saint-Hilaire-la-Treille. Nancy et Verdun, Louison et Bobet, Callot et Rupin, Pigeon et Ramier, Tino et Rossi, Bordeaux et Paris, Serpent et Boa, Perdreau et Bouvreuil, Galope et Chopine, Tiens bon et lâche pas. Et pour ma part, j'en ajoute deux qui m'avaient amusé dans mon enfance, Sapeur et Pompier, et Potage et Magie. Voici maintenant les paroles d'une chanson de labour avec Rouge et la Bichette. Il nous faut labourer, hu la Rouge, hu. Le gai soleil se lève, il nous faut labourer. La Rouge se redresse, va chercher le joug et l'enciné. Mais bien les payères, les tons sont malins et fais bien ta prière pour écarter le malin. La terre n'est pas plane. Il faut se cramponner pour faire un bon travail. Il faudra verser la terre sur le haut. Quand la bichette tire, la Rouge va plus doucement. Ce n'est pas qu'elle soit rétive, mais bah, elle ne vaut pas autant. La bichette s'apprête, la Rouge a vêlé. Nous allons atteler la baillette. Elle est dressée à tirer des deux côtés. Notons que l'on commençait à faire travailler les bœufs vers leur 30e mois. Quant aux vaches, on ne les utilisait guère avant 2 ans. Notons également que les bœufs et les vaches étaient ferrés lorsqu'ils devaient aller sur les routes, ainsi qu'au moment des semailles d'automne, lorsque les charrois importants de fumier doivent être entrepris. Ces vaches, qui sont l'élément central de la vie économique de nos campagnes bas-marchoises, il faut les dresser et aussi les garder au champ. Nous rappelons simplement ce texte de Paul Lavergne sur la garde des troupeaux.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Non seulement les laboureurs bolaient en poussant la charrue, non seulement les bergères de brebis composaient des chansons pour lancer le chien derrière les bêtes, mais les petits gardeurs de vaches bolaient aussi à plein poumon dans les prairies. On les avait arrachés du lit dès 4h du matin, alors qu'il leur est fait si bon dormir à point fermé. Mais il fallait garder les bêtes avant de se rendre à l'école. Rien n'eût servi de rogimber. Le père trouvait toujours un bon moyen de les réveiller.
« Lève-toi vite, cadet. Il y a 4 grosses lièvres en train de danser le quadrille à la cime du pré. Tu pourras les voir, si tu te dépêches. »
Au fond de tout petit paysan sommeille un braconnier, guetteur de gibier, de sauvagine. Cadet sautait du lit sans se faire prier, se doutant bien pourtant que c'était une menterie. Le lendemain, le père inventait une autre attrape. Il y était question de la busarne ou du coucou, d'un lapin ou d'un écureuil, et le petit consentait encore à s'y laisser prendre. Mais dans les champs, il y avait tant de merveilles à observer. Les nuages, le soleil levant, une pie bâtissant son nid, des empreintes dans la rosée, qu'il n'avait plus du tout sommeil. Et tout à coup, un chant montait aux lèvres de cet enfant solitaire, un chant pour s'enquérir de la présence d'un autre petit berger qui observait, lui aussi, les traces des bêtes sauvages. « Où mèneras-tu demain, camarade ? Camarade ? Où mèneras-tu demain, camarade de là-bas ? » Et l'autre petit garçon solitaire, réveillé également dès l'aurore par son père, pour garder les vaches, tout heureux de sentir une présence à proximité, de sa voix aigrelette répondait « Je mènerai dans le champ de la buse, camarade !»« Camarade, je mènerai dans le champ de la buse !»« Camarade de là-bas !» Puis, après un temps de joie égale, au plus profond de leur cœur, ils reprenaient ensemble la volivoulo, tabayo, tabayo, la volivoulo, tabayo d'avo. Quelques heures plus tard, ils se retrouvaient sur le chemin de l'école. Un peu de lait, un peu de beurre, un peu de fromage. Nous l'avons vu, la vache limousine est une piètre laitière et jadis l'essentiel de la production de lait est destiné au veau. Pourtant, au XXe siècle, dans les petites exploitations, on ajoute une ou deux vaches laitières, des brettes comme on dit, au troupeau pour fournir les produits laitiers nécessaires à la vie de la famille et notre fermière devient aussi une vraie laitière, une vraie fromagère. Écoutons les paroles de cette chanson. Notre vaillante Toinette, avant le jour s'est levée. Quand ses dévotions sont faites, le café, elle fait chauffer. Elle ouvre la porte de l'étable, prend un tabouret et va traire dans la seillette la baillette et la margot. Quand elle a fini de traire, elle passe le lait au couloir, à la maison. Elle va faire une bonne soupe de choux. Elle met dans les faisselles tous les cabrions, lave toute la vaisselle et pour le lait, les bidons. Elle porte l'eau de lavage dans l'auge du cochon, va donner à la volaille une bonne poignée de grains. Il faut aller à la boutasse, rincer le baquet et puis courir derrière les chèvres qui broutent les haies. Elle n'a pas les jambes en coton quand elle part au marché, une ou deux fois par semaine, avec son panier plein à ras d'œufs, de molettes de beurre et de fromage fait. Il faut traire, traire à la main, sur un petit tabouret à trois pattes. Traire, c'est tout un art. Certaines fermières attachent parfois la queue de la vache pour éviter de se faire fouetter le visage. Puis il faut laisser reposer le lait dans une pièce froide. C'est souvent une pièce contiguë à la cuisine, pièce sans fenêtre construite au nord, que l'on appelle la laiterie. Il faudra aussi écrémer à l'écrémeuse et encore battre dans la baratte pour produire le beurre. Le fromage le plus produit en basse marche, c'est le caïa ou caillade. Lorsque le lait est encore chaud, on ajoute de la présure. Une heure après, le caillé est formé. On sépare alors le petit lait, qui est souvent destiné au cochon, et on obtient ce fromage blanc frais. Lorsqu'il y a un surplus de beurre, ce qui est très rare, c'est le coquetier qui, dans nos campagnes bas-marchoises, le commercialise en plus des œufs et des volailles.
Sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats.
Bien sûr, il nous faudrait une autre émission pour expliquer comment, en un peu plus d'un siècle, on est passé d'une race tout à fait commune à une des meilleures races à viande du monde. Il faudrait parler des foires, des marchés, des comices agricoles, de la sélection, de la génétique et bien sûr, du herbouc limousin. Aujourd'hui, on ne conduit plus la vache au taureau comme par le passé, mais je ne résiste pas au plaisir de vous dire, pour terminer, quelques-unes des pratiques destinées à faciliter la fécondation, en particulier à Mézières-sur-Issoire et Nantia. Placer un peu de sel entre les cornes de la vache. Lui faire manger une feuille de chou ou lui mettre de l'euphorbe dans la bouche. Et enfin, jeter un seau d'eau fraîche sur l'arrière-train de la vache juste après l'accouplement. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai intitulée « Bœufs, veaux et vaches, jadis en basse marche ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Louis Timbal, du préfet Texier Olivier, d'Albert Gourceau, de Dominique Dantieu et Philippe Grandcoin, de Charles Sylvestre, de Michel Dupeux et de Paul Lavergne. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel à l'exceptionnel Citra Sad qui a collationné des milliers de musiques de la ruralité française. Et encore à Louis Linel et à Michel Praetorius, dont nous écoutons en ce moment une bourrée. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.